Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Mario Dumont.
Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
Mario Dumont.
Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Cube Radio.
C'est vendredi. Bienvenue à l'émission. Fin de la semaine. Plus on arrive tard en saison, plus on aime voir venir les vendredis. Bonjour Vincent.
Salut Mario.
Toi, ça n'existe pas les vendredis. Tu travailles encore plus la fin de semaine.
Oui, mais je vais venir voir arriver le dimanche. Moi, dans
Quand même. Vincent, conférence de presse aujourd'hui des autorités là, qui, pour une xième fois, essayent de s'expliquer sur l'intervention policière à Uvalde, au Texas. Mais aujourd'hui, sincèrement, moi, j'ai trouvé ça un peu pathétique. Là. Ça se détériore.
Bon, on dirait qu'ils ont essayé de s'expliquer plus dans les derniers jours. Puis là, aujourd'hui, ils ont admis là, que c'était une mauvaise décision. Ça a été le terme employé par le directeur du département de la sécurité publique du Texas sur le fait qu'avec le recul, c'était pas la bonne décision de ne pas entrer à l'intérieur de la classe pour confronter le tireur.
Mais Vincent, moi, je suis quelqu'un qui pardonne aux élus, à tout le monde. Je sais que c'est difficile les mais il y a un point de rupture, il y a un point où tu peux pas juste dire ah bah tu sais l'erreur est humaine. Si t'as fait une aussi mauvaise décision pendant que les enfants étaient au bout d'un canon, je veux dire, faut qu'il y en ait 16 qui démissionnent, là, toute une chaîne de commandement de gens qui ont...
Il y avait 19 agents sur place qui attendaient, qui ont attendu pratiquement une heure d'avoir les clés, d'avoir le SWAT pour pouvoir intervenir face à un jeune de 18 ans là. Qui est nouvellement armé, donc c'est très très embarrassant.
On va certainement en reparler. On joint l'équipe de 100 % Nouvelles.
Trouve maintenant Mario dans les studios de Cube Radio. Bonjour, Mario.
Bonjour.
Alors, un sondage finalement qui ressemble aux autres. La CAQ est toujours en avance dans les intentions de vote avec 46 % D'ailleurs, on peut tout de suite entendre François Legault.
On prend rien pour acquis. Ça fait assez longtemps que j'étais en politique pour savoir que ça change rapidement. Donc, faut rien prendre pour acquis. Il reste 4 mois. Il faut mériter la confiance des Québécois chaque jour. Et il y a une belle campagne qui s'annonce là. Donc, chaque parti va présenter ses propositions. Donc, je prends rien pour acquis.
Mario, est-ce que M. Legault le pense vraiment ce qu'il vient de dire, qu'il ne prend rien pour acquis?
Il pense un peu quand même. Là. Ça reste toujours, tu sais, faire face à l'électorat, ça reste toujours insécurisant, même quand tu pars en avance. J'ai pas de doute là-dessus. Mais le sondage, il est sincèrement, là, du point de vue de la CAQ, spectaculaire, celui-là. C'est-à-dire que quand on regarde, bon, c'est toujours regarder l'écart entre le plus proche rival. Là, t'es à 28 %. Moi, on n'a jamais vu ça. Là. T'sais, moi, je surveille la politique depuis les années 80. On n'a jamais rien vu de semblable. Remarque si on regarde les chiffres à l'écran, Jean-Marc Léger me faisait remarquer ce matin, dans les années 80, même 90, quand il y avait un système à deux partis, des fois, un parti avait ça, le 46 %, puis son adversaire avait 44 ou 48, 46. Là, c'est que l'opposition est complètement éclatée. Là. T'sais, à 46, la CAQ, mais l'opposition est complètement morcelée. Mais il faut voir l'autre tableau. Et celui, quand on parle des écarts entre la CAQ et son plus proche rival, il faut aller chez les francophones. Regarde-moi ça. C'est presque 40 points, 39 points entre la CAQ et son plus proche rival. Or, le vote francophone, là, c'est... Tu sais, si t'enlèves l'Ouest de Montréal, t'enlèves une vingtaine de comtés, 25 comtés, c'est le cœur de l'élection. Là, c'est l'ensemble des régions du Québec. C'est de loin la plus grande partie des sièges. Donc... C'est cette impression que moi j'ai eue depuis un an, 6 mois, un an, que à un moment donné, un parti d'opposition va prendre la pôle, là, t'sais, va devenir l'espèce de véritable adversaire de François Legault, va mobiliser. Il n'y a jamais tout le monde qui est satisfait, donc mobiliser l'insatisfaction, et ça se produit pas. Là. À un point, on pensait qu'avec Gabriel Nadeau-Dubois, Québec solidaire allait le faire. À un point, on pensait que c'était Éric Duhem. On pense toujours que Mme Anglade, il reste que le Parti libéral a l'avantage, ils sont l'opposition officielle. Fait que de façon institutionnelle dans notre système. C'est eux qui sont supposés être l'alternative au gouvernement. Mais il n'y en a aucun de ceux-là qui lève. Même chose quand on demande qui ferait le meilleur premier ministre. Là, c'est Éric Duhaime qui se classe, disons, le premier des oppositions là, derrière François Legault. C'est ça. C'est pour la CAQ, là, c'est un sondage très, très fort. En fait, la question aujourd'hui est plus, est-ce que c'est trop fort, là? Est-ce que, à ce moment-ci, c'est au point où tu perds des électeurs qui vont se dire, ah ben, la CAQ, je les aime bien, mais ça me fait peur, là. Un gouvernement qui va avoir 100 sièges sur 125, c'est trop fort. C'est de ce côté-là que la crainte se situe. Dans les oppositions. Je l'ai écrit dans une chronique ce matin sur le sondage. Moi, je trouve que le gros défi des partis d'opposition, c'est dur, là. Tu vois l'autre qui est en avance, puis toi, dans ta tête, là, tu l'as critiqué en chambre, puis toi, tu connais en détail tous ces mauvais dossiers, telle affaire, les médecins, les garderies, les gens pas
essayé. Mais oui, parce qu'il y en a eu des dossiers pour rebondir. Oui. Il y a eu la pandémie, la réforme de la loi 101, l'inflation.
Oui, mais il y en a des meilleurs de la réforme de la loi 101. À mon avis, ça, la CAQ a marqué énormément de points avec ça. À mon avis, ça a été très, 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 chez les francophones, là, très, très payant électoralement. Ceci dit, le défi pour les partis d'opposition, c'est de rester positif, là. C'est de pas commencer à haïr la CAQ parce qu'ils sont trop forts dans les sondages, puis haïr le monde parce qu'ils appuient la CAQ, puis venir choquer contre tout. De rester concentré sur on a un programme, on est convaincu de nos idées, on aime le Québec, on veut travailler pour le Québec, on a quelque chose à offrir. Et de rester positif parce que je demeure convaincu. Puis tu vois, ce matin, j'étais avec Jean-Marc Léger à mon émission, puis il pense ça aussi, qu'il y a un moment... Les Québécois ne mettront pas tous leurs œufs dans le même panier. Et il y a un de ces partis d'opposition, à un certain moment, là, qui va ramasser quelque chose. Ça va peut-être se passer vite dans les deux dernières semaines de la campagne, puis qu'il y a le parti qui va avoir mieux recruté des candidats, bâti un bon programme, été positif avec des bonnes idées, va aller chercher du vote. Je crois pas ça, mais que les Québécois vont mettre tous leurs œufs dans le même panier. Je crois que c'est fort pas possible. La probabilité est là que la CAQ soit réélue. Mais que les Québécois vont mettre tous leurs œufs dans le même panier, moi, j'ai peine à croire ça.
Bon, il y a peut-être des oppositions qui peuvent être peut-être un petit peu plus motivées. Je pense au Parti conservateur d'Éric Duhaime ou encore du côté de Gabriel Nadeau. Là aussi, ça va pas si mal, là.
Ben, bon, pour les conservateurs d'Éric Duhaime, c'est peut-être ceux qui ont les meilleures nouvelles. Quoique, chez les francophones, il a perdu quelques petites plumes, mais bon, pas si pire. Ça a monté, en fait, lui, il s'est maintenu.
Mais il est rendu deuxième comme meilleur premier ministre.
Ouais, meilleur premier ministre. Mais chez les francophones, il était deuxième, puis il l'est plus, par exemple. Parce que lui, là, ce qui a maintenu son score, c'est une percée importante chez les non-francophones. Et ça... On sait pas trop quoi penser de ça. Là. Cette semaine, ils ont voté contre la loi 96 sur la langue française. Est-ce qu'il va, il a vraiment insisté pour qu'il y ait un débat en anglais? Donc, il semble penser qu'il y a quelque chose à aller gagner là. Est-ce qu'il va être capable de matérialiser ça? Parce qu'on a souvent vu des partis autres que le Parti libéral monter chez les anglophones ou chez les allophones entre les élections. Mais quand arrive le vote, ça se matérialise pas. Donc, est-ce que ça pourrait se produire pour Éric Duhaime? Dans le cas de Québec solidaire, c'est pas si positif que ça. Il faut comparer avec la dernière élection. À la dernière élection, Manon Massé avait eu 16 % du vote. Et les 10 sièges de Québec solidaire, c'était un exploit, là. Parce que moi, le premier, personne n'y croyait, là, qu'il allait gagner des sièges en dehors de Montréal. Sherbrooke, Rouyn-Noranda, deux à Québec. C'était un coup de force, là, de Québec solidaire, cette élection. Et là, aujourd'hui, le 16 % de la dernière élection, ils sont pas là du tout. Ils sont en bas de ça. Donc, il y a du travail là, pour Québec solidaire. Même Gabriel Nadeau-Dubois, que plusieurs ont tendance à placer comme plus habile politiquement, meilleur en chambre que Manon Massé. Ben, si on se fie platement au sondage, là, il serait pas capable demain matin de répéter l'exploit que Manon Massé a accompli à l'élection. Il reste du baseball à jouer, il reste 4 mois. Mais aujourd'hui, là, il réussirait pas à faire réélire probablement les 10 mêmes députés avec un aussi fort pourcentage que Mme Massé avait obtenu. Donc, chez Québec solidaire, je pense qu'on espère plus. Là, on pense toujours que ça, qu'à un moment donné, ça va, ils ont des bons candidats, ils ont fait des bonnes choses, mais ils espèrent que ça va partir à monter, mais ça se produit pas.
Mais Manon Massé qui va s'en aller sur le terrain, là, dans sa Manon mobile, comme nous disait Claudie Côté. Qu'est-ce que tu penses de cette stratégie-là, là, d'aller surtout dans les villes universitaires, essayer de faire sortir le vote chez les jeunes?
Stratégiquement, c'est pas fou, c'est intéressant. Ça nous dit en même temps, bon, je suis peut-être tordu, mais je regarde toujours les deux côtés de la médaille. Ça nous dit en même temps qu'on nous prépare à nous la sortir des médias, là, puis qu'on va donner toute l'attention médiatique à Gabrielle Nadeau-Dubois, puis qu'elle, on l'envoie, là, c'est, on l'envoie sur les routes. Ça dit aussi ça. Mais moi, je sens que Québec solidaire est quand même bien préparé pour cette élection-là. Je regarde les choix de candidats, je regarde les cantons de l'Est dans différentes régions, là, ce qui apparaît comme candidature, les stratégies. Donc, je m'attends à ce que toute la campagne, le programme, le dévoilement, les slogans, j'ai l'impression que ça va être assez professionnel chez Québec solidaire. Je m'attends quand même à une campagne de bonne qualité. C'est pour ça qu'il n'est pas dit que le score ne peut pas remonter.
Je veux vraiment qu'on parle d'Alexandre Bissonnette, la Cour suprême qui a déclaré inconstitutionnel le cumul des peines. Ça fait réagir la classe politique. Ça risque aussi d'avoir des impacts là, sur d'autres procès à venir, là, tout ça.
Forcément.
Ceux qui ont déjà eu lieu, parce que
ouais. Tous les meurtres multiples, il n'y a pas de doute. Dans le dernier, le Carl Giroir, la question se serait peut-être posée pour Carl Giroir qui a assassiné deux personnes à l'Halloween à Québec. La question se posera plus, étant donné que c'est plus légal. Si on me demande mon opinion à moi, j'étais d'accord là, avec la loi du gouvernement Harper de dire ben, dans le cas de meurtre de masse, de tuerie de masse, où il y a plusieurs personnes qui sont assassinées, qu'on puisse aller plus loin. En fait, la vraie affaire, je trouvais que ce que le juge à Québec, dont le nom m'échappe, avait fait d'aller à 40 ans, c'était plein de logique. Parce que c'est sûr que si tu fais des tranches de 25 ans, 25, 50, 75, ça monte trop vite. Là. Puis t'arrives à un certain moment, t'arrives vite, l'individu, il va être décédé. Là. C'est plus que la vie humaine. Mais de dire que tu peux pas dépasser le 25 ans, c'est-à-dire que tu fais un meurtre ou que tu tues 2, 3, 5, 6, 8 personnes, que tu purges toutes tes peines en même temps, puis que tu as le droit de demander une libération conditionnelle au bout de 25 ans dans tous les scénarios. Moi, j'étais plus d'accord avec la loi de Stephen Harper. Ceci dit, on connaît, il y a une inclinaison au Canada des tribunaux, de la Cour suprême, de la majorité politique, tout le pays penche à gauche, puis il y a une inclinaison à ce que toutes les peines soient toujours moins sévères. Tu sais, on est en pleine crise des armes à feu à Montréal, puis au Parlement fédéral, ils sont en train de voter une loi pour rendre les peines moins sévères pour les crimes par armes à feu. C'est comme la tour de Pise, là. Tout penche vers des peines moins sévères, puis tout ça. Et le jugement arrive, s'inscrit exactement dans cette foulée. Là. Je dois souligner en terminant quand même les gens de la Grande Mosquée de Québec là, ce matin qui ont parlé et qui sont déçus, qui sont choqués de ça, mais qui ont parlé quand même avec beaucoup de dignité, accepter tourner la page, accepter le verdict du plus haut tribunal du pays. J'ai trouvé que c'était comporté et qu'il avait réagi avec énormément de classe dans les circonstances.
Bon, là, tu dis que ça penche d'un côté au Canada. Aux États-Unis, ça penche de l'autre côté. Après la tuerie de masse au Texas, il va quand même avoir lieu le congrès de la NRA.
Ouais. Ouais. Ben, j'ai deux affaires à dire là-dessus. La première, c'est que le congrès de la NRA, il y a quand même un malaise. Il y a des gens qui s'annulent. Le maire s'est annulé. Le gouverneur de l'État, même le gouverneur de l'État là, qui avait dit qu'il irait finalement, il a envoyé un petit message vidéo, là, une petite participation à distance, il n'ira plus. Donc, minimalement, ça présente l'image d'un malaise. J'oserais dire que ça me rassure quasiment qu'il y ait au moins un malaise. Je vais te compléter ma réponse en te disant quand même, c'est un clin d'œil que j'ai fait à l'émission ce matin. Tu sais que pour le discours de Donald Trump, il y a contrôle des armes à feu. Là. Les gens à l'entrée sont fouillés, vérifiés, les sacs à main, etc. pour qu'il n'y ait aucune arme à feu. Parce que là, on disait, là, c'est les Secret Service, un ancien président américain, puis on veut s'assurer qu'il n'y a pas d'armes à feu. C'est quand même un drôle de retour des choses dans un congrès où on dit que les armes à feu, c'est pas un danger, puis qu'il faut se promener partout avec librement. Leur héros, Donald Trump, va prendre la parole, puis on s'assure qu'il n'y a personne qui a d'armes à feu dans la salle. Ah, tiens donc.
Merci beaucoup,
Marie-Claude. Merci, Marie-Claude. Bonne fin de semaine. Alors, Vincent, dans les autres nouvelles qu'on surveille, Hydro-Québec qui a refait le point ce matin sur les difficultés, la lenteur à rebrancher les gens. On est rendu à vendredi, puis il en reste toujours 40 000.
Oui, et ça descend pas très vite parce que hier, au point de presse d'Hydro-Québec, on disait on souhaite là qu'il reste que 30 000 personnes qui soient privées d'électricité avant la fin de la journée vendredi. Bien là, il faudrait que ça aille vite parce qu'on est à 40 800 en ce moment. 1 350 tonnes encore. Hier, Mario, à la même heure, c'était 1 450. Alors, on a baissé de 100 pannes. Ça va pas, ça a vraiment pas avancé beaucoup depuis hier. On sait qu'Hydro-Québec là, dit déployer presque 2000 travailleurs en ce moment qui travaillent sans relâche 16 heures par jour. Mais les pannes, souvent, c'est des petites pannes de dizaines de clients, moins que ça même, maison par maison.
Tu vois, ils viennent de passer, je suis à jour, 39 900. Ils viennent juste de glisser sous la barre des 40 000 là, dans les dernières minutes.
Il y a 10 minutes, donc tu vois qu'au moins...
39 900 à 34.
Pannes?
1337 pannes.
Bon, t'as 1350 tantôt, donc ça descend pas très vite. Rappelez que, selon Hydro-Québec...
Mais là, c'est parce qu'il y a des gens, on rentre dans la deuxième semaine demain, là, sans électricité.
Ça commence à être problématique. On sait, pour Hydro-Québec, on sait la pire crise depuis la crise du verglas. Et les coûts qui seront quand même importants, on parle d'au moins, enfin, on dit, ça pourrait être dans les 30 millions de dollars là, comme frais pour la société d'État.
Arrestation après un cas de violente agression sexuelle.
Ouais, c'est une histoire vraiment troublante parce que quand on parle d'agression sexuelle, c'est souvent dans l'entourage et compagnie, mais l'image qu'on se fait souvent, c'est une jeune femme attaquée là, dans un boisé violemment. Mais c'est ce qui est arrivé comme cauchemar à une femme sur la rue Notre-Dame à Montréal, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve au début du mois de mai. Heureusement, dans ce dossier-là, et la police donnait quelques détails aujourd'hui sur la comparution d'un homme de 36 ans de Saint-Constant, David Catudal, qui a été arrêté pour cette agression sexuelle violente commise sur cette femme il y a 3 semaines. Ce qu'on explique donc, c'est qu'il fait face à des accusations d'agression sexuelle causant des lésions, séquestration, voie de fait, en étouffant, suffoquant et étranglant une victime. L'histoire, là, une femme de 33 ans marchait seule à cet endroit, a été agrippée par l'homme qui l'aurait ensuite traînée de force dans un boisé pour l'agresser sexuellement. Il lui faisait carrément une clé de bras autour du cou. Heureusement, la femme, on dit qu'il s'est débattu avec une force là, surhumaine, a réussi à se libérer de son agresseur pour se sauver dans un autobus, appeler les policiers qui ont été capables, avec des techniques d'enquête, de remonter jusqu'à cet homme-là qui a été arrêté. Et on parle d'un présumé dangereux prédateur sexuel voyant le type de violence. Et il a été, lui, 2 jours avant les faits allégués, reconnu coupable pour un dossier d'agression armée. Alors, il devait déjà faire 30 jours de prison les week-ends. Et à travers juste après cette sentence-là, il aurait commis cet acte extrêmement violent. Alors, une histoire troublante. Heureusement, c'est rassurant si les policiers croient avoir pu mettre la main sur l'auteur de cette agression.
Et c'est le genre de dossier dont tout le monde parle, que tout le monde suit, puis que moi, je suis de très loin. Johnny Depp et Amber Heard, là, je suis quand même au courant. Je suis quand même au courant un peu par la force des choses. Mais là, c'est terminé. Là, on est à l'étape où le jury prend ça en délibéré.
Ouais, le jury officiellement délibère. Écoute, c'est que dans ce dossier-là, j'entendais ma collègue Geneviève Peterson tantôt dire, même si tu suis pas ce procès-là, il revient à toi pareil. Si vous êtes sur les réseaux sociaux le moindrement, depuis 6 semaines maintenant, on avait l'impression que c'était un procès pour double meurtre, là, tellement il y a eu des témoins, que ça a été éternel. Vous rappelez
Mais
que...
c'est un procès en diffamation.
En diffamation. Enfin, au centre poursuit. Vous rappelez que Johnny Depp, l'acteur de 58 ans, lui accuse son ex-épouse Amber Heard d'avoir ruiné sa carrière et sa réputation en 2018 en se déclarant comme une représentante d'une femme qui a reçu des violences, qui a eu des violences conjugales, donc disant une personnalité publique représentant les violences conjugales. Et elle, donc actrice de 36 ans, dit que c'est une plainte qui est futile, que ça prolonge les abus et le harcèlement qu'elle a subi. Donc, lui, il réclame 50 millions de dollars en dommages-intérêts et elle contre-poursuit pour le double. Et là, pendant 6 semaines, on est allé étaler là, toutes les misères de leur couple là, dans tous ces états.
Puis des témoins, puis des ex-conjointes qui viennent dire qu'il est de même, qu'il est pas de même. Mais sincèrement, j'ai trouvé ça pathétique.
Ouais, ça a été assez particulier. Aujourd'hui, donc, c'était les plaidoiries où les avocats de Johnny Depp ont dit qu'il lui voulait reprendre le cours de sa vie, qu'elle souhaitait pas seulement le divorce, mais voulait le ruiner, qu'elle est en réalité l'agresseur, tandis que du côté d'Amber Heard, on dit complètement l'inverse, que Johnny Depp était un monstre sous l'emprise de cocktails explosifs de drogue et d'alcool et que lui avait promis une humiliation mondiale si elle le quittait. Alors là, les jurés devront trancher là-dedans. On devrait avoir ses fériés lundi aux États-Unis, donc probablement mardi.
Mais donc, on a une cause de diffamation. C'est pas imaginable au Canada. Là, au Canada, tout ce qui est civil, il n'y a pas de jury. Là. Mais donc, tu as un jury pour une cause civile.
Exactement. Mais je sais pas, écoute, l'ampleur que ça a pris, un couple pas connu, je peux pas croire que ça dure 6 semaines, là. Avec des experts, puis des analystes, puis des...
C'est comme si la justice est complice d'un show. Là.
Ben, ils ont comme décidé de se faire une émission...
Une télé-réalité.
Faut dire, par contre, qu'il y a des côtés très sombres à tout ça, parce qu'Amber Heard, qui a été vraiment vue sur les réseaux sociaux, là, la majorité des internautes ont pris le camp de Johnny Depp, s'amusant de ses répliques, des fois, ses petits sourires face aux avocats qui en arrachaient, des fois, de Amber Heard, et l'ont vraiment... sont vraiment visé cette actrice-là comme étant la méchante. Et elle dit être victime là, de milliers de menaces de mort, qu'on lui a dit qu'on voulait mettre son enfant dans un micro-ondes, rien qu'elle reçoit pas comme menace. Alors, ça a bouleversé la vie aux deux là dans les derniers jours.
Ben oui, mais c'est débile d'exposer ses affaires dans une télé-réalité publique où les gens deviennent partisans. Moi, je prends pour un, je prends pour l'autre.
C'est Mario, en cours, les chicanes de couple, c'est pas diffusé sur Internet, là. Si, là-bas, c'est une émission que t'écoutes, là. Écoute, particulier, on verra si le jury s'entend sur un méchant dans l'histoire.
Un vrai méchant, décidé par le jury. Oui.